accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Décidément, il est de moins en moins secret, ce service de renseignement allemand. Au fil des mois, les scandales révèlent les activités les moins avouables du BND. Hier, on dénonçait ces pratiques d'espionnage des partenaires européens voisins, donc théoriquement alliés. Aujourd'hui, c'est l'hebdomadaire de référence Der Spiegel qui nous apprend que le service d'État espionnait les journalistes étrangers. À Berlin, Julien Méchaussier.
Programme en langue étrangère de la BBC à Londres, bureau du New York Times en Afghanistan, ceux de l'agence de presse Reuters au Pakistan et au Nigeria. La liste des journalistes écoutés par le BND, le service fédéral de renseignement allemand, dévoile un véritable système de surveillance. Martin Knobe est l'un des trois journalistes du Spiegel à l'origine de ces révélations.
Nous avons eu uniquement accès à un extrait des listes de surveillance du BND. Et sur ce seul extrait, on peut identifier 50 journalistes et rédactions qui ont été surveillés. C'est un chiffre conséquent. Ce n'est donc ni le fait du hasard, ni un cas isolé. C'est un système pensé qui a été mis en place. Et c'est pour cela que nous parlons de surveillance systématique.
Des révélations mises à jour par la commission parlementaire qui enquête depuis près de 3 ans sur les activités illégales du BND. Commission créée après la découverte des activités d'espionnage de la NSA en Europe, l'agence de sécurité américaine, avec la complicité directe du BND. Le Spiegel a eu accès à des documents en possession de la commission qui confirme la surveillance de journalistes, un système mis en place dès 1999 qui a profité d'un vide dans la législation allemande. S'il est strictement interdit pour le BND de surveiller des journalistes allemands, la loi ne dit rien sur les journalistes étrangers. Dans les régions en crise où il est particulièrement difficile d'obtenir des renseignements, il était donc tentant de s'en remettre à des journalistes de terrain, comme Arnaud Zeitmann, journaliste belge, longtemps basé à Kinshasa, en RDC, pour la BBC, puis pour France 24. Ses téléphones avaient été mis sur écoute en 2006, année d'élection.
Il y a fort lieu de penser que cela avait un lien avec l'organisation des élections. Un contingent de l'armée allemande était présent afin de sécuriser ces élections dans le cadre de la mission de l'Union européenne. On peut donc supposer que des journalistes comme Arnaud Zeitmann ont été mis sur écoute parce que le Congo était à cette époque un objectif prioritaire de renseignement.
Reporters sans frontières a qualifié ces activités du BND d'effroyables attaques contre la liberté de la presse. Et pour l'organisation, tout laisse à croire que les services allemands continuent encore aujourd'hui à surveiller des journalistes étrangers.
Quatre mois après le démantèlement très médiatisé du bidonville de Calais dans le nord de la France, les migrants sont de retour. De quelques dizaines, ils se comptent aujourd'hui par plusieurs centaines, en majorité des mineurs, qui n'ont pas abandonné leur rêve de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Leurs conditions de vie sont pires qu'avant, sans aucun abri. Ils vivent dans le froid, dans les bois. Certaines associations locales leur viennent en aide. C'est le reportage d'Alice Posicky.
Ah, j'espère qu'on a le ballon de foot parce que sinon ça va pas le faire.
Au volant d'une camionnette, Marion et Gaël prennent la direction de la zone industrielle. À l'arrière du véhicule, des sacs de couchage, des plats préparés, des vêtements et un ballon de foot. De quoi faciliter un peu le quotidien des migrants. Ce soir-là, l'équipe a déjà 20 minutes de retard.
Ah, ils nous attendent, ils sont dans les starting blocks. On va se faire défoncer.
C'est tout petit.
Entre les hangars, au pied d'un lampadaire public, une cinquantaine de migrants se lèvent pour accueillir la camionnette tant attendue.
Sorry, I'm late.
À y regarder de plus près, l'âge de ces migrants ne laisse aucun doute. Ce sont majoritairement des adolescents. Ils sont originaires d'Érythrée, ils ont fait le voyage seuls et se retrouvent à Calais sans aucune aide, excepté celle des associations locales. Après la distribution, les jeunes entament une partie de foot. Parmi eux, Ficha, un petit bonhomme intrépide d'à peine 17 ans.
Je suis arrivé il y a un mois. Entre-temps, je suis aussi allé à Saint-Omer, c'est pas très loin d'ici. Il y a un centre pour mineurs. Et je suis revenu à Calais il y a une semaine. Et je veux aller en Grande-Bretagne, c'est pour ça que je suis là. Je veux aller à l'université, pourquoi pas Oxford. Je voudrais devenir joueur de foot professionnel.
Football player.
Daniel est un peu plus vieux que les autres. Il vient d'Érythrée et se trouvait déjà à Calais avant le démantèlement de l'ancienne jungle en octobre dernier. Comme la plupart des migrants, il a rejoint un CAO, un centre d'accueil et d'orientation, mais il n'y est resté qu'un mois et demi.
Je ne dis pas que c'est pas tellement que c'était pas bien ou qu'il y avait des problèmes, mais je veux aller en Grande-Bretagne. C'est pour ça que je suis venu dans la jungle. Le démantèlement, ce n'était pas une solution pour moi.
Au centre d'accueil et d'orientation, Daniel aurait pu demander l'asile en France, mais le jeune homme n'a jamais entamé ses démarches.
Je sais bien qu'on peut faire sa vie ici, que c'est peut-être même mieux qu'en Angleterre. Le problème, c'est que j'ai appris l'anglais quand j'étais à l'école en Érythrée. C'est donc plus facile pour moi d'aller en Grande-Bretagne pour réaliser mes ambitions, pour poursuivre mes études. Si je demandais l'asile en France, il faudrait d'abord que j'apprenne le français. Je pourrais le faire, bien sûr, mais je n'ai pas envie d'y consacrer du temps. Je l'ai déjà assez fait dans mon pays.
Nous, c'est vraiment de l'urgence qu'on fait. On leur donne à manger, des couvertures, etc. Mais il faudrait bien plus.
Gaël Manzi fait partie de l'association Utopia 56. Avec l'aide des bénévoles, il organise des maraudes à Calais et voit le nombre de migrants augmenter chaque semaine.
Au début, on constatait beaucoup de retours de centres d'accueil pour mineurs isolés. Et maintenant, on voit de plus en plus de primo-arrivants, en fait, des gens qui viennent de Paris, d'Allemagne, d'un peu partout, en fait.
Chaque jour, dans le port de Calais, la police découvre entre 70 et 80 personnes cachées dans les remorques des camions. Ce chiffre augmente de semaine en semaine. À chaque découverte, les forces de l'ordre appliquent la consigne du ministère de l'Intérieur, tolérance zéro avec les migrants. Gilles Debauve est policier dans la région.
Tout migrant présent sur le secteur fait l'objet d'une procédure de rétention administrative ou de garde à vue selon sa nationalité. C'est ce qu'on nous demande de faire actuellement, mais bon, ça commence à devenir très compliqué. Pourquoi ? Parce que les centres de rétention administratifs sont saturés. On est obligé de remettre une nouvelle fois, comme ça s'est produit il y a plusieurs mois, les migrants hors site du port ou du tunnel, par exemple, sans pouvoir traiter les procédures parce qu'on n'est pas assez et il n'y a plus de place. Concrètement, ils repartent dans la nature et puis ils retenteront une journée ou deux plus tard.
Le défenseur des droits, Jacques Toubon, s'inquiète de la situation. Il estime que le démantèlement du bidonville n'a rien résolu.
C'est une situation permanente qui est malheureusement créée par le fait que la politique migratoire de l'Europe est une politique restrictive, une politique qui n'ouvre pas les voies légales d'immigration, mais qui s'efforce de dresser en quelque sorte des murs ou des grillages. Et je pense qu'on ne pourra rien faire si l'on continue cette politique qui aboutit à créer plus de problèmes qu'à en résoudre.
En plein cœur de la zone industrielle calaisienne, la distribution de nourriture touche à sa fin. Il est plus de minuit, les jeunes se retirent par groupes de 4 ou 5 dans un bois sombre, le seul endroit où ils pourront se reposer quelques heures.
En Turquie, la campagne du référendum sur le régime présidentiel prévu le 16 avril est lancée. D'un côté, les partisans du oui, soudés autour de la figure du président Erdogan. De l'autre, une multitude de partis et de militants sur les réseaux sociaux qui expliquent les raisons de leur non. Parmi eux, beaucoup de jeunes, très peu convaincus par cette réforme qui engage leur avenir. Reportage à Istanbul d'Anandlauer.
Ils ont la vingtaine, la trentaine et un mot à la bouche, hayır, qui veut dire non en turc. Au premier étage d'un café, ces jeunes activistes qui se définissent pour la plupart comme de gauche, électeurs du parti pro-kurde, préparent la campagne du non au référendum d'avril. Ou plutôt leur campagne du non. Car face au bloc du oui au régime présidentiel, emmené par le chef de l'État Recep Tayyip Erdogan, le parti au pouvoir AKP et le parti nationaliste MHP, le bloc du non n'en est pas un. On y trouve des nationalistes en rupture de banc, les sociodémocrates du CHP, les pro-kurdes du HDP, mais aussi un parti islamiste, l'extrême-gauche nationaliste, l'extrême-gauche communiste et une myriade de groupes de la société civile, des féministes ou LGBT. Pour Melis Özbakır, l'une des jeunes du café, cette diversité n'est pas forcément un handicap.
Il y a beaucoup de raisons de dire non, alors que le oui se concentre autour d'une seule personne, le président. Le camp du non ne cherche pas, n'a jamais cherché à faire une campagne commune. Ça n'aurait pas été possible. Mon non n'est pas forcément le nom de mon voisin. La Turquie est tellement diverse politiquement. Par exemple, deux personnes qui votent non peuvent avoir une vision très différente de la démocratie. Je n'ai pas grand-chose en commun avec un électeur nationaliste. Chaque partisan du non fait campagne campagne dans son propre camp.
Le problème pour cette militante, c'est surtout le manque de visibilité. Face à la redoutable machine électorale du parti au pouvoir, l'opposition se plaint d'un manque criant d'accès aux médias et à l'espace public, et parfois même d'un manque de sécurité, y compris à Istanbul, la plus grande ville turque, où Melis et ses amis tractent presque chaque jour.
Tous les matins, de 7h à 8h30, nous sommes à la sortie des transports en commun. Nous distribuons nos tracts à ceux qui partent au travail en leur disant un grand bonjour. Il y a ceux qui s'étonnent et nous disent « Alors comme ça, le nom peut s'afficher dans la rue ?» Il y a ceux qui sont très contents de nous voir et nous encouragent. Il y a aussi beaucoup de partisans du oui qui déchirent violemment la brochure. Je n'ai jamais subi de violence physique, mais un ami a été poignardé en tractant pour le non. Ça dépend du quartier, bien sûr, mais ça montre que le niveau de tolérance a baissé.
Depuis plusieurs semaines, le pouvoir rôde sa stratégie, diaboliser ses opposants. Puisque les terroristes et autres putschistes souhaitent la victoire du non, les détracteurs de la réforme sont présentés comme des complices des putschistes et des terroristes. Gökçenin Ekiorum, un architecte, estime que c'est un piège qui peut être évité.
L'autre camp nous attaque sans cesse en disant à ses partisans « Puisque cela vote non, il vous faut voter oui ». Notre stratégie, au contraire, consiste à expliquer aux gens ce qu'il y a dans la réforme, puis à leur demander « Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?» Nous leur rappelons que si le non l'emporte, le gouvernement ne tombera pas, le président sera toujours président. Nous disons que rien ne changera, que ce n'est pas une question de vie ou de mort, qu'il y a des milliers d'autres sujets bien plus importants dont nous devrions parler, comme la situation économique, la guerre. D'ailleurs, je ne pense pas que la plupart des électeurs du parti au pouvoir considèrent tous ceux qui vont voter non, c'est-à-dire plus ou moins la moitié du pays, comme des traîtres ou des terroristes. Ce n'est simplement pas réaliste.
Difficile de se fier aux sondages. Les instituts, souvent partisans, publient des résultats contradictoires. Pour l'instant, la plupart des observateurs s'accordent à penser que la victoire, d'un camp ou de l'autre, se fera sur le fil et qu'elle se jouera sur les indécis, en proportion non négligeable, en particulier chez les jeunes. Ce que confirme la sociologue Sevinç Doğan.
Beaucoup de jeunes ne comprennent pas l'intérêt de cette réforme. C'est certainement pour les convaincre que le pouvoir a ajouté dans le texte un article qui abaisse de 25 à 18 ans l'âge pour être élu député. Il y a beaucoup d'indécis parmi les jeunes. Et plus l'âge baisse, plus le non est plébiscité. Ces jeunes sont indécis car ils se projettent dans l'avenir. Ils savent qu'Erdogan n'est pas éternel et ils se demandent à quoi ressemblera la Turquie sous un régime présidentiel lorsqu'eux-mêmes auront 28 ou 38 ans.
Dans ce contexte, l'activiste Melis Özbakır veut rester optimiste et prudente.
Chaque jour, je change d'état d'esprit. Si le référendum avait lieu aujourd'hui, je pense que le non aurait de fortes chances de l'emporter. Mais je pense que le pouvoir n'a pas encore montré ce dont il est capable. Je suis sûre qu'ils essaieront des manœuvres de sabotage, comme des arrestations, si le non se renforce. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra être fort dans notre non. C'est à ce moment-là qu'il faudra redoubler d'efforts pour que les gens croient en ce non. Si nous y parvenons, je pense qu'on peut être optimiste.
Même s'il s'en serait bien passé, la plupart de ces jeunes en viennent à considérer le référendum comme une chance pour l'opposition. L'occasion de se mobiliser, de s'extirper de l'apathie des derniers mois, marquée par la guerre dans le sud-est kurde et la répression de l'opposition après la tentative de putsch. L'espoir, surtout, de mettre en échec Recep Tayyip Erdogan sur un projet qu'il considère comme le plus important de ses 15 années de pouvoir.
Atmosphère politique très tendue en Albanie. L'opposition manifeste dans les rues de Tirana pour protester contre la politique du gouvernement socialiste d'Edi Rama. En cause, une réforme de la justice négociée avec l'Union européenne, mais très certainement aussi la perspective des élections législatives le 18 juin prochain. Pour en parler, on retrouve Laurent Gélin. Laurent, comment expliquer cette crise politique ?
Eh bien, l'Albanie se débat dans une crise politique aux multiples rebondissements. Depuis de longs mois, les députés de l'opposition boycottent le Parlement pour protester contre une réforme de la justice dont ils affirment avoir été écartés. Cette réforme était pourtant exigée par l'Union européenne et avait été fortement soutenue par les chancelleries occidentales. Le commissaire européen aux politiques de voisinage, Johannes Hahn, a même implicitement désavoué la stratégie de l'opposition en soulignant, je cite, que le débat politique ne devait pas se dérouler hors des murs du Parlement et que la coopération entre le gouvernement et l'opposition était cruciale pour que l'Albanie puisse rejoindre l'Union européenne. De fait, tout dialogue semble depuis longtemps rompu entre les deux principaux partis de la scène politique albanaise. Ces deux partis se relaient au pouvoir depuis la chute du régime communiste en 1991. Alors actuellement, dans l'opposition, les libéraux du PD dénoncent la corruption de la majorité socialiste et reprochent notamment au Premier ministre Edi Rama, depuis son arrivée au pouvoir en 2013, d'avoir organisé l'extension de la culture du cannabis dans le pays pour en tirer de substantiels revenus. Alors dans les faits, quand ils étaient eux-mêmes au pouvoir, les membres du Parti démocratique ne semblaient pas non plus très enclins à lutter contre le trafic de cannabis.
Et le Parti démocratique peut-il forcer le gouvernement à démissionner ?
C'est toute la question. Pour l'instant, la mobilisation ne dépasse guère les rangs des militants du parti, alors que des milliers de jeunes diplômés quittent chaque année le pays dans l'espoir de trouver en Europe occidentale une vie meilleure, les citoyens ordinaires semblent également déçus par les deux grands mouvements politiques du pays.
Laurent Gélin, un de nos correspondants dans les Balkans. Manifestation aussi en Pologne, mais cette fois c'est contre une pièce de théâtre. La malédiction, c'est son titre, joue la provocation sur les scandales pédophiles de l'Église. Une enquête pour blasphème a été lancée. L'affaire devient donc aussi politique à Varsovie. Maja Szymanowska.
Ce n'est pas un théâtre, c'est un bordel, scande un groupe de jeunes hommes venus devant le théâtre Powszechne de Varsovie manifester contre la pièce de théâtre « La malédiction ». « Cette pièce, c'est de la merde », hurle l'un des manifestants dans un mégaphone. En cause, des scènes ouvertement anticléricales avec l'effigie de Jean-Paul II, le pape polonais, très respecté en son pays. Dans la pièce, un mannequin à l'effigie du souverain pontife polonais est pendu avec un écriteau « défenseur de pédophiles ». Une actrice lui prodigue une fellation, d'autres acteurs en soutane s'enlacent et s'embrassent. Des scènes qui ont provoqué l'ire des conservateurs et de l'Église. Le porte-parole de l'épiscopat a taxé la mise en scène de blasphématoire. Une journaliste de la télévision publique, sous le contrôle des conservateurs du droit et de la justice, a été licenciée pour avoir dit qu'il fallait d'abord aller voir le spectacle avant de le critiquer. Une autre a été suspendue dans ses fonctions pour n'avoir pas assez attaqué la pièce. Pour le metteur en scène croate Olivier Friljic, le théâtre doit pousser le spectateur en dehors de sa zone de confort. Ce provocateur professionnel a adapté librement une pièce de l'auteur polonais du 19e siècle, Stanisław Wyspiański. Cette pièce, intitulée « La malédiction », traite des relations complexes des Polonais avec la toute-puissante Église catholique. Wyspiański y évoque un drame dans un petit village polonais dont les habitants rejettent sur une femme qui a eu deux enfants avec un prêtre toute la responsabilité d'une sécheresse qui frappe leur récolte et demande son châtiment. Face à cette levée de boucliers de l'Église et du Parti conservateur Droit et Justice, deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Varsovie. L'une pour blasphème, l'autre pour incitation au crime sur la personne du président du parti au pouvoir Droit et Justice, Jarosław Kaczyński. Dans une des scènes finales, en effet, une actrice évoque la possibilité d'une collecte d'argent auprès des spectateurs pour payer un tueur à gages qui assassinerait le président du PiS. Mais justement, c'est une scène qui interroge les limites de la liberté d'expression, explique le metteur en scène. En attendant la conclusion de l'enquête, la pièce se joue à guichet fermé, toutes les places se sont vendues en quelques heures depuis le début du scandale et un slogan circule sur les réseaux sociaux « À cause des conservateurs, nous sommes forcés d'aller au théâtre ».
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission et bien sûr Accent d'Europe. À très bientôt, dès demain. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité sur RFI. Autour